savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Il a quitté son Mali natal il y a 22 ans pour venir travailler en France. Il n'a pas serré sa femme dans ses bras depuis 7 ans, n'a pas vu grandir ses enfants et vit en exil pour leur envoyer de l'argent. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Malet Doukara a accepté pendant 5 ans de se faire filmer par Denis Gerbrand, un documentariste qui en tire un portrait et un témoignage émouvant. Malet en son exil, sorti cette semaine sur les écrans en France. Denis Gerbrand sera notre invité dans une vingtaine de minutes. Nous irons à Madagascar où un programme pédagogique entreprend de former des enfants à la fabrication de films d'animation. Et puis deux longs métrages américains cette semaine à l'affiche, The Front Runner de Jason Reitman et Glass, le nouveau thriller fantastique signé Night Shyamalan.
Tous les cinémas du monde sur RFI avec Unifrance Film, l'actualité du cinéma français à l'international. www.unifrance.org.
Mais on part tout d'abord au Burkina Faso, première étape de notre tour du monde, Elisabeth.
Oui, on part à Ouagadougou avec la conférence de presse ce mardi du 26e FESPACO qui se tiendra du 23 février au 3 mars. Donc 20 longs métrages de fiction représentant 16 pays d'Afrique, une forte présence, hein, comme toujours Sophie, du Burkina avec 3 films retenus de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, un focus sur les documentaires et sur les films d'animation. Enfin voilà pour les grandes lignes.
Et puis il y a évidemment un anniversaire.
Et oui, le grand festival panafricain fondé en 69, entre autres hein, par le Sénégalais Samben Ousmane. Le FESPACO souffle cette année ses 50 bougies. On écoute Ardiouma Soma, son délégué général.
Nous allons projeter l'ensemble des films étalons de Yenenga. Donc certainement, il y a des initiatives privées aussi pendant le festival qui vont rendre des hommages particuliers à certaines figures, notamment Idrissa Ouedraogo.
Idrissa Ouedraogo, un grand cinéaste burkinabé, Sophie, disparu en février dernier. Donc il fera l'objet d'un colloque durant le festival et c'est l'occasion bien sûr de montrer son œuvre sur grand écran aux jeunes générations pour célébrer aussi une édition qui se place sous le signe de la mémoire du cinéma africain.
Je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous venir avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard.
Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père?
Il se marie. Ah, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi.
Autre festival, celui-ci en ligne.
Et oui, ce vendredi, c'est ouverte la 9e édition de My French Film Festival. Donc ce festival créé en 2009 par Unifrance, l'organisme chargé de l'exportation des films français. 10 longs métrages français, autant de cours disponibles dans le monde entier, hein, sur une cinquantaine de plateformes. Alors en 2009, c'est vrai que lancer un festival sur Internet, c'était presque un petit défi. Aujourd'hui, My French Film Festival, c'est le plus grand festival francophone en ligne avec 12 millions de visionnages. Donc au menu cette année, des comédies comme Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier, on vient d'entendre la bande-annonce, Au poste de Quentin Dupieux, des polars, des films de répertoire et même une série que vous aimez beaucoup, Sophie, Le Bureau des Légendes.
Formidable série d'espionnage.
En 2018, plus de la moitié des spectateurs de My French Film Festival étaient chinois. Alors petit bémol hein, quand même, c'était grâce à la plateforme créée par le cinéaste chinois Jia Zhongke qui s'est arrêtée cette année.
Le festival My French Film Festival, donc le festival du film français en ligne, c'est jusqu'au 18 février.
Je veux du soleil. Jeu du soleil, c'est notre film donc sur les gilets jaunes. On peut se demander, en tant que député, est-ce que c'est mon boulot de faire un film? C'est vrai.
Voilà, les gilets jaunes auront bientôt leur film.
Et c'est le cinéaste député François Ruffin, on vient de l'entendre, hein, qui sera derrière la caméra pour que ce mouvement, je le cite, ne soit pas résumé à un mouvement d'alcooliques, de fascistes, d'antisémites, je le cite toujours, hein, un mouvement décrit par BFM Télé et des intellectuels à chemise blanche. Donc le film s'est tourné pendant une semaine en décembre et Ruffin a lancé un appel sur son site internet pour que des personnes intéressées réclament des projets. Dans des salles de cinéma ou j'imagine aussi sur le rond-point de leur choix.
You need to prove you're looking for work.
Yeah, I've been looking, trust me.
Three signatures by tomorrow, or you can tell it to the judge.
Tell me about a time when you worked hard to solve a problem.
This morning, getting up.
The Upside, l'adaptation américaine d'Intouchable, est au sommet du box-office.
Et oui, un peu plus de 7 ans après le succès inouï de la comédie de Nakash Toledano, The Upside a fait un box-office de 20 millions de dollars malgré des critiques assez négatives.
Et qui joue Omar Sy ?
Eh bien, on vient de l'entendre, c'est l'acteur et humoriste Kevin Hart. Alors Kevin Hart, qui était ces dernières semaines au cœur d'une petite polémique, enfin même d'une grosse polémique, puisqu'il a été écarté de la présentation des Oscars à cause de ses propos homophobes. Et c'est Bryan Cranston, donc l'acteur de Breaking Bad, qui reprend le rôle du milliardaire tétraplégique joué par François Cluzet.
Au Maroc, les journalistes et critiques de cinéma ont élu leur meilleur film de l'année. Le gagnant est
Volubilis de Fawzi Ben Saïdi. On s'en réjouit, on le recevait dans ce studio même il y a quelques mois. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'émission qu'on lui consacrait sur Internet. Et derrière lui, presque à égalité, Al Jahiliya de Hicham Lasri et Sophia de Meriem Ben Barek.
Enfin, on achève notre tour du monde à Madagascar. Un petit bijou d'animation réalisé en 2015 par des enfants bénéficiaires d'une association de Touléar. Ce film d'animation pourrait bientôt faire reparler de lui. Tongasua et le Vaza, c'est son titre. C'est le titre donc de ce court film de 6 minutes qui raconte comment le séjour d'un jeune étranger va perturber la vie paisible de tout un petit village malgache. À commencer par entraîner la déscolarisation massive des enfants du village, qui imaginent comment tirer profit de la générosité de l'étranger, plus que de l'enseignement donné sur les bancs de l'école. Dans cette région du Grand Sud de Madagascar, la scolarisation est un véritable enjeu, puisqu'on estime qu'un enfant sur deux ne va pas au primaire, que plus de la moitié abandonne avant la fin des études primaires. Notre correspondante Sarah Teto a rencontré les concepteurs du film. Retour sur une aventure extraordinaire.
Il était une fois, sur une grande île rouge qu'on appelle Madagascar, une petite fille qui avait l'habitude de grimper tout en haut de son vieux baobab.
Il était une fois en 2015, une ONG appelée Bel Avenir qui s'est mis dans la tête de réaliser un film d'animation avec une vingtaine d'enfants déscolarisés de Tuléar. C'est l'histoire d'une rencontre entre Tongasu, une petite fille, et un Vaza, un étranger en malgache. La suite, c'est Angela, 10 ans au moment de la conception du film, qui la raconte.
L'étranger vient en vacances dans le village. À chaque fois qu'il croise des enfants, il leur distribue des bonbons. Donc les enfants, dès qu'ils voient l'étranger blanc, ils crient « Bonbon Vaza, bonbon Vaza !»
Salut !
Une petite photo ? Allez, voilà des bonbons.
Plus l'étranger donnait des bonbons, plus il y avait d'enfants.
Mais pourquoi font-ils ça ? Ils sont bien mal élevés.
Mais c'est toi qui leur as donné quelque chose en premier. Ils n'auraient jamais pensé à te demander si tu ne leur avais rien donné.
Tu crois ? Tu as peut-être raison.
En fait, l'histoire, elle explique qu'il ne faut pas donner des bonbons aux enfants, mais plutôt les encourager à aller à l'école pour leur avenir. Parce que si on leur distribue toujours des petits cadeaux, ils préfèrent attendre sur le bord de la route que les étrangers viennent plutôt que d'aller apprendre des choses à l'école.
Un film d'enfants, pour les enfants, mais pas seulement. En effet, au-delà de cette première morale, il y en a une seconde, plus pour les adultes, comme l'explique Ormin Ange, éducatrice à Bel Avenir.
On a voulu démontrer qu'il existait des différentes cultures entre malgaches et les étrangers. Par exemple, ici, il y a beaucoup de tabous. À l'étranger, il y a pas de tabous. Donc, c'est à nous, les malgaches, d'éduquer les étrangers à respecter notre culture.
Étrangers, sans ce qu'en donnant des bonbons aux enfants, tu leur as fait croire qu'il suffit d'étendre la main pour obtenir quelque chose. Et tu as prouvé un interdit à te baigner dans la rivière.
Je vous demande à tous pardon. Je ne connais pas vos coutumes et votre culture qui est si différente de la mienne.
Les enfants qui ont participé à ce projet, c'est les enfants qui n'y vont pas à l'école. Ils ont appris de colorier, de dessiner et surtout faire l'animation. C'est une belle expérience parce que c'est la première fois dans son avis qu'il a fait comme les dessins animés qu'il regarde à la télé.
Pour Angela, cette aventure l'a transformée.
En plus de dessiner les décors, mon rôle, ça a aussi été de mettre en forme les images devant la caméra. Ce que j'ai préféré faire, c'est la voix des enfants qui crient « Bon, mon Vaza !» Quand ça a été diffusé à la télévision locale, tout le monde était mort de rire et mes amis de la rue étaient fiers de voir ce que nous avions réussi à créer.
Aujourd'hui, Angela a 13 ans, elle est scolarisée dans une école primaire de la ville, une autre réussite que l'on doit au projet et aux éducateurs. L'association Bel Avenir souhaite aujourd'hui promouvoir son film à travers différents festivals pour continuer de sensibiliser enfants comme étrangers.
C'était un reportage de notre correspondante à Madagascar, Sarah Teto. 13 nouveaux longs-métrages en salle cette semaine. Une jeunesse dorée, le deuxième long-métrage d'Eva Ionesco. Aïka, le Rosetta russe de Sergueï Tsvartsevoï, qui a valu à la comédienne Samal Gheslyamova le prix d'interprétation féminine à Cannes. Double vie, le nouveau Olivia Sayas, on le présente un peu comme une sorte de Jules et Jim 2.0.
Et puis Sophie Glass de M. Night Shyamalan, présenté comme le troisième et dernier volet d'une trilogie. Vous avez adoré.
Oui, et adoré, surtout que je l'attendais en fait, ce volet. Il y a 19 ans, souvenez-vous, après le succès de son premier film, Le Sixième Sens, Night Shyamalan, donc réalisateur américain né il y a 48 ans en Inde, déroutait les spectateurs avec Incassable, un film de super-héros situé dans un contexte réaliste où on voyait un génie du mal, Samuel L. Jackson, cloué dans un fauteuil roulant, atteint de la maladie des os de verre, révélé à un agent de sécurité anonyme incarné par Bruce Willis, eh bien qu'en fait il était un surhomme, lequel Bruce Willis choisissait de servir le bien, de devenir une sorte de justicier anonyme. Alors après une carrière en danse à Hollywood, plusieurs échecs, même de nombreux échecs, puis de nouveau un petit succès au box-office avec The Visit, Night Shyamalan sort il y a 2 ans Split. L'acteur James McAvoy y réalisait une prouesse en incarnant un dangereux psychopathe habité par une vingtaine de personnalités, dont une bête pourvue de pouvoirs hors du commun. Eh bien, Glass réunit ces 3 personnages, le cerveau, le superviseur et la bête. On les découvre tous 3 internés dans un hôpital psychiatrique, suivis par une psychiatre bien décidée à les soigner de leur mégalomanie.
It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am.
My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. It's a growing field.
Malicieux, Night Shyamalan joue avec les codes des films de super-héros.
All my movies. I can say this because we're in France.
Bon, on est en France, donc je peux vous le dire, mais sous des allures de films de genre, eh bien, tous mes films sont des drames. C'est ça mon secret. Donc, je travaille beaucoup la psychologie de mes personnages. Et pour ce film, je me suis demandé ce qui se passerait si vous vous imaginez être un super-héros. Est-ce que c'est possible? Que se passerait-il? Et j'ai joué avec les attentes du public. Car quand je regarde les blockbusters de super-héros, eh bien, je suis toujours perdu avec la scène finale. Il y a beaucoup trop d'effets spéciaux. Notre budget effets spéciaux pour Glass, ça doit être l'équivalent de 3 plans de ces blockbusters. Et j'aime bien l'idée de dérouter les spectateurs, de les satisfaire, mais aussi de les surprendre.
Sophie Shyamalan parle beaucoup de super-héros, on vient de l'entendre, mais dans son film, il n'y a pas de héros en collant, masqué, volant dans le ciel.
Oui, effectivement, hein, c'est un film d'auteur avec super-héros ou alors un blockbuster cinéphile. Effectivement, il mélange les genres avec adresse. Alors, il agace certains critiques qui le qualifient avec mépris de faiseur. Moi, je trouve ça même très injuste. Moi, je trouve qu'il séduit vraiment avec ce divertissement haut de gamme, qui pose aussi la question de la multiplication des films de super-héros à Hollywood. On voit plus que ça maintenant, depuis une dizaine d'années.
J'ai essayé de comprendre pourquoi les films de super-héros ont tant proliféré depuis 20 ans. Peut-être que c'est lié à la faillite des dirigeants mondiaux, on a besoin de héros virtuels, ou alors on a besoin de s'entendre dire que l'on pourrait être des héros. C'est le pouvoir des comic books. Ils aident les lecteurs à reprendre le pouvoir. C'est pour cela que j'ai établi une comparaison entre les religions et ces bandes dessinées. Les religions disent que le pouvoir est extérieur, détenu par un être suprême. C'est un outil de contrôle des masses. Et les comics, au contraire, prônent l'anarchie en disant que quiconque peut être un super-héros ou un super-méchant.
Et pour Glass, il a réuni Shyamalan 3 stars. Bruce Willis, bien sûr, Samuel L. Jackson, bien sûr, et James McAvoy.
Voilà, James McAvoy, toujours toujours impressionnant, hein, qui endosse le rôle de Kevin Wendell Crumb, le psychopathe aux 24 personnalités. Comme un transistor passant d'une fréquence à l'autre, l'acteur britannique de 40 ans peut basculer de l'enfant de 9 ans, Hedwig, à la stricte Patricia ou au monstre musculeux, la Bête.
On voit 20 facettes dans ce film. Patricia, Dennis ou Hedwig sont des personnages complexes. La Bête est incroyable, effrayante, drôle et en même temps capable d'aimer. Ça aurait été compliqué de n'en jouer qu'un seul. C'était le défi, mais aussi la satisfaction de ce rôle. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était de jouer la Bête, car je n'avais pas à disposition de costume ou de cape. On a utilisé les effets spéciaux, mais pas tant que ça. Ce n'est pas un super-héros comme un autre. Il doit être étrange, différent. Je devais trouver quelque chose de bestial ou d'animal. Donc oui, ça, c'était compliqué.
Voilà, compliqué, mais en même temps, c'est un véritable défi que James McAvoy relève avec agilité. Glass clôt donc une trilogie signée Night Shyamalan, même si on a l'impression, en voyant le film, qu'il pourrait nourrir plusieurs suites. En tout cas, le réalisateur de 48 ans, lui, il assure que ce sera sans lui.
The youngest candidate, hard spoke at four.
Campaign trail.
The clear front runner.
So start with the shoulder in a little. My name's Gary Harden. I'm running for president.
I want you to think about the opportunity that we have right here, right now.
Le naufrage de la candidature du démocrate Gary Hart à la Maison-Blanche en 1988, après la révélation par la presse de ses aventures extra-conjugales. Devant la caméra, Hugh Jackman. Derrière, Jason Reitman. Le film s'intitule The Front Runner. On pourrait traduire ça comment, Elisabeth ?
En fait, le front runner, c'est le favori, le premier de cordée, celui qui caracole en tête de course. Alors, pour ces élections, pour ces présidentielles de 88, vous l'avez dit, Sophie, c'est Gary Hart, tout le monde s'accorde à dire que ce sera le prochain président des États-Unis, loin devant George Bush, quand deux journalistes et un photographe le surprennent une nuit en galante compagnie.
Bon, on connaît la fin de l'histoire, ce cliché a mis fin à la course présidentielle de Gary Hart. Du coup, c'est quoi l'enjeu du film ?
Ben en fait, le film est inspiré d'un livre, un livre du journaliste Matt Bai, qui avait été écrit en collaboration avec Gary Hart, et c'était un livre qui questionnait plutôt la presse. Son sous-titre d'ailleurs, c'était The Week Politics Went Tabloid. Les tabloïds, c'est les méchants, c'est la presse jaune, c'est la presse à scandale. Alors Jason Reitman, lui, s'est un peu échappé pour nous offrir une plongée, échappé du roman pour nous offrir une plongée au cœur d'une campagne présidentielle pulvérisée en plein vol. Donc ce n'est pas un portrait à charge, ni de Gary Hart, ni du monde des journalistes. C'est plutôt un film nerveux, trépidant, qui est servi par d'excellents acteurs. Hugh Jackman est extraordinaire. À ses côtés, Vera Farmiga, qui joue la femme de Gary Hart. C'est un grand film sur les dessous de la politique. Et je vous assure, Sophie, même si on connaît la fin, ça se voit comme un thriller.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. Un titre de Nina Simone qui figure justement sur la BO de The Front Runner, c'est Cinnamon.
Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out, I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day, so I ran to the river, it was bleeding around to the sea, it was bleeding around to the sea, it was bleeding all on that day, so I ran to the river, it was boiling around to the sea, it was boiling around to the sea, it was boiling all on that day, so I ran to the Lord. Don't you see me praying?
Nina Simone sur RFI. Vous êtes toujours à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous entamons la deuxième partie de l'émission en compagnie de notre invité, Denis Gerbrand. Bonjour.
Bonjour.
Denis Gerbrand, vous êtes documentariste. Vous avez signé une dizaine de films, dont Après un voyage dans le Rwanda, La République Marseille, où on a grévé. Vous sortez en salle votre nouveau film, Malé en son exil. Un portrait de Malé Doukara qui a quitté son Mali natal il y a 22 ans pour vivre et travailler en France.
Le rapport qui était entre nous au Mali, ouais, c'est le même pareil qu'ici.
Oui, d'accord.
Voilà. Si tu es noble, ouais, au Mali, ouais, c'est pareil, tu es noble ici. Si tu es esclave au Mali, ouais, c'est pareil, tu es esclave ici. Si ouais, tu es griot au Mali, c'est pareil. Ouais. Tu es griot ici aussi.
Et toi, tu es quoi alors, tu es
noble? Moi, je suis noble.
Ouais.
Voilà. Ouais. Moi, je suis noble.
Voilà, Malé Doukara, noble au Mali, mais agent d'entretien en France. Denis Gerbrand, quand et comment est-ce que vous l'avez rencontré?
C'est une longue histoire. J'ai cherché... Mon propos était simple, c'était filmer les travailleurs du nettoyage, considérant que les travailleurs du nettoyage, ce sont... d'une part les soutiens de notre économie, et d'autre part ceux qui arrivent ici, parmi nous. Hein. Donc,
ceux qu'on ne regarde pas, ou plus, ou pas du tout.
Bah, c'est ceux qu'on... Oui, dont on ne sait rien, et dont on pense que... Dont on a un peu du mal à imaginer ce qui a eu un avant, et qu'avec eux, bah, ils amènent leur richesse, hein, leur manière de penser, et c'est de cette patte-là que j'avais envie de parler, d'approfondir. C'est simple, moi je suis cinéaste. Je vois des gens, j'habite à Paris, je prends le métro comme tout le monde, je vois des gens dont on peut dire qu'on ne connaît rien, qu'on ne voit pas, qui sont... Le terme invisible est un peu galvaudé, mais néanmoins, même s'ils sont visibles, ils sont impénétrables, on va dire, et ben moi j'avais envie d'y aller. Voilà, pour nous les faire connaître et pour avoir une parole et pas seulement une image, j'ai envie de dire. Alors, j'ai suivi pendant plus de 6 mois la permanence juridique d'un syndicat qui s'occupe spécifiquement des travailleurs de nettoyage, tout nettoyage, hein, de femmes de chambre aux personnes qui nettoient les gares, à toutes ces personnes, en cherchant à rencontrer des gens, tout simplement, à lier du contact. Et il y avait une grande peur. C'est-à-dire que, tant que j'étais à l'intérieur du syndicat, il y avait une espèce de bulle protectrice, comme ça, tout allait bien. Mais il y avait très peu de gens qui avaient... Il y avait même, pour ainsi dire, pas de gens qui étaient en mesure d'avoir un rapport autonome avec moi. Un rapport de cinéma, où ils...
Mais vous aviez votre caméra, ou avec vous?
J'avais ma caméra, mais moi... Je filme seul. Le grand avantage de filmer seul, enfin une des raisons pour lesquelles on filme seul, c'est que c'est léger, c'est pas coercitif. Si vous êtes avec une équipe, les gens vont se sentir un peu obligés d'être filmés, vont se sentir en face d'une institution. Là, il y a un type tout seul dans un coin. Il a sa caméra posée à côté, mais c'est pas un drame s'il filme pas, c'est pas, voilà, c'est absolument pas un drame.
Mais du coup, est-ce que vous avez compris pourquoi ils avaient peur et pourquoi, ce qui a fait accepter Malé à rebours?
Ah, bah oui, j'ai eu le temps de le comprendre. Oui, bah c'est très simple, cette invisibilité, d'une certaine manière, elle les protège. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors, pourquoi Malé? Ça reste un mystère pour moi, d'une certaine manière, parce que, d'abord, c'est le mystère d'une amitié avec quelqu'un avec qui s'est construite dans le temps, avec quelqu'un avec qui je ne partage pas grand-chose au niveau des idées, et ça vaut peut-être mieux.
On y reviendra.
Vu certaines de ses idées, mais on reviendra à ça. Et c'est le plaisir qu'il y a justement à ne pas être pareil, et à confronter et à avancer sans arrêt dans nos différences. Et en fait, ça a été un moteur continuel de notre relation. Et c'est ça qui fait le film, c'est l'approfondissement d'une culture que spontanément nous rejetons, puisqu'elle n'est pas sur les mêmes fondamentaux. Pour dire simple et rapide, les siècles des Lumières, pour nous, les êtres sont égaux, c'est un de nos fondamentaux, même si on le met pas toujours en pratique, hein, faut pas exagérer.
Et d'entrée de jeu, d'ailleurs, dans le film, hein, on a entendu dans l'extrait, Malé explique, voilà, je suis noble au Mali, je suis noble ici. La structure de sa société, elle s'applique ici, ici même, Pays des Lumières.
Mais heureusement, j'ai envie de dire d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils restent effectivement complètement dans leur intégrité, ils restent dans leur... ils restent avec une très grande peur de notre société, de nous, hein, peur d'être mis en cause. Et peut-être ce qu'il y a de très particulier dans ce film, c'est que justement, c'est quelqu'un qui va partir à approfondir toutes les questions et tout ce qui l'habite, pour qu'il va l'approfondir sans arrêt et à la limite presque contre sa communauté. C'est-à-dire que sa communauté ne comprenait pas qu'il puisse avoir une relation avec un blanc.
Qu'il puisse accepter d'être filmé par vous ?
Oui, moi ou un autre. Enfin, que l'idée qu'un blanc puisse pénétrer ce qui fait tout leur bagage, ce qui fait leur identité, hein, si on, au sens le plus culturel, mais aussi peut-être le plus fermé du terme, ça leur faisait extrêmement peur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit à deux.
Est-ce que Malé, il était aussi curieux de vous que vous de lui ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un deuxième volet de Malé en son exil qui s'appellerait Denis en son royaume ? Enfin, je plaisante, hein, mais est-ce qu'il y avait un contre-champ qu'on ne voit pas dans le film ? Enfin, qu'on voit peu ?
Non, je dirais pas comme ça. Parce que pour lui, notre culture, il en connaît les bases, et donc il comprend très bien. Et ce qu'il y avait de frappant, et ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'en fait, les points de contradiction entre nous, il ne les abordait jamais que quand je prenais ma caméra. Et ça, c'est très, très révélateur de ce que veut dire être filmé. Être filmé, ça a toujours quand même quelque chose de l'ordre de la vérité. C'est-à-dire que quand vous êtes filmé, vous êtes regardé. Vous êtes regardé d'abord par le type qui vous filme en face de vous, mais vous êtes regardé partout dans le temps. Il y a quelque chose qui va rester, et donc c'est vous, ce que vous dites doit s'ancrer profondément. Donc il pouvait pas laisser passer, il pouvait pas ne pas dire ce qui allait fâcher. Bon, ce qui est, c'est simple, hein. Il a des esclaves, il trouve que la polygamie c'est très bien, mais il n'est pas polygame, hein, je tiens bien à le préciser. Et puis, bon, le truc énorme, c'est autour de l'excision, évidemment.
Et ça, on y reviendra, hein. Denis
Garand. On y reviendra, soyons calmes.
Mais pour revenir sur Malé, le fait qu'il ait accepté, du coup, puisque vous avez essayé, peut-être, vous aviez peut-être demandé à d'autres agents d'entretien, agents de ménage, avant lui, avant de tomber sur Malé. Est-ce que vous savez pourquoi lui, il a accepté ? Est-ce que c'est la phrase de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi ? Ou parce que vous parlez d'amitié ?
Oui, bah, on pourrait dire l'amitié, mais qu'est-ce qui le poussait, qu'est-ce qui l'animait, effectivement, à m'expliquer comme ça ses fondamentaux ? Je pense qu'il avait besoin... C'est un garçon, faut remonter un peu dans sa vie, hein. C'est un garçon qui a été à l'école, comme il l'explique dans le film, à l'école des Blancs et non à l'école islamique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était orphelin et que sa mère n'avait pas les moyens de payer l'imam qui allait lui apprendre le Coran par cœur. Et ça lui a donné une ouverture. Ça, c'est clair. En même temps, il n'est pas imam, il est issu d'une famille d'imams, et il se vit comme le continuateur de ses ancêtres. Lui, il a un héritage matériel et culturel qu'il se doit de transmettre. Il se vit dans une chaîne raccordée à une histoire. Quand je lui demande de quand date cette histoire, ben, date du XVIe siècle. C'est-à-dire que ses ancêtres sont venus s'installer dans son village au XVIe siècle. Mais il sait déjà, il sait aussi où étaient ses ancêtres avant et qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire que peu d'entre nous ont, en fait, de leurs origines et de leur filiation. Donc c'est ça qu'il cherche à entretenir, à poursuivre, dans un monde qui, bah, évidemment, balaye tout ça. C'est très clair. Donc, il est dans une position à la limite schizophrénique entre le plus du 21e siècle que lui, c'est un peu c'est difficile, en fait. À sa manière, il est plus dans le 21e siècle que vous et moi. Il connaît beaucoup mieux Paris et les banlieues et les milieux que nous, puisqu'il va faire des ménages dans les bureaux, donc il a une vision de la société qui est assez riche, multiple. Et ce dont il s'agit pour lui, c'est de mettre une forme dans notre langue. C'est pas rien, dans notre langue, à travers nos concepts. Et c'est ça, à cet exercice-là, qu'il l'a passionné.
Malé travaille dur, il se lève très tôt, il cumule plusieurs emplois, il se lève à 4 heures quasiment tous les matins pour gagner très peu.
T'es parti, t'avais quel âge?
Ah ben, je vous avais dit ça à plusieurs reprises.
Oui, mais j'aimerais que tu me redises.
Hein? J'avais à 27 ans?
Ouais.
Voilà.
Et donc tu es revenu à 33 ans?
À 33 ans. Je suis retourné là-bas.
Et donc ton bébé, tu l'as pas vu grandir?
Elle était en Côte d'Ivoire.
Ah bon?
Avec sa maman, sa grand-mère.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Et alors, tu l'as revu à quel âge alors?
Je l'ai revu à 16 ans.
À 16 ans?
Ouais. Je l'ai revu à 16 ans. C'est quand elle est retournée au Mali, mmh, et qu'elle est mariée. Mmh. Donc, je l'avais retrouvée là-bas.
Tu l'as revu à 16 ans et elle était une femme mariée?
Une femme mariée, c'est ça.
C'est-à-dire, tu as quitté un bébé de 2 ans, enfin, un enfant de 2 ans, et tu l'as revu femme mariée?
Femme mariée, c'est ça. C'est un peu drôle, hein? C'est un peu drôle. Mmh. D'après vous-même, vous vivez avec votre famille, tout ça, à côté de vous, bon, il n'y a rien de soucis.
Bah oui, nous sommes mes enfants.
Nous sommes très soucieux, hein. Ouais. Voilà, on a beaucoup de soucis. Ouais. Voilà, nous vivons beaucoup de soucis ici. Ouais. L'absence des mamans, ouais, l'absence des femmes, l'absence des enfants, bon, tout ça, ça nous manque, hein. C'est Chercher de l'argent, jusqu'à perdre la vie. C'est comme ça.
Ouais. Voilà, Malé Doukara, dans votre documentaire, Denis Gerbrand, Malé en son exil. Une vie difficile, une vie de solitude. Hein. Et effectivement, il le raconte, il ne voit pas sa femme, il ne l'a pas vue depuis 7 ans.
Tout à fait.
Vous filmez de temps en temps ses appels.
Il n'a pas vu sa femme et il est constamment avec sa femme au téléphone. Il est constamment au village par le biais du téléphone. Il dirige, comme l'ensemble de ses compatriotes, le village. Dans le film, il y a une scène où on voit donc des représentants de son village. En fait, c'est le conseil du village. Le conseil du village, il a lieu, là en l'occurrence c'était à Ivry, dans un foyer. Et ce qui est décidé à Ivry va être appliqué là-bas au village. On est constamment dans le passage d'ici à là-bas.
On voit aussi, c'est assez frappant, même si c'est bien connu, et notamment pour nous RFI, mais on voit par exemple un candidat à la présidentielle malienne faire son tour à Montreuil, parce que Montreuil, c'est une énorme communauté qui compte d'ailleurs, puisque les travailleurs maliens ici en France, ils envoient, ils participent à l'économie au Mali.
Oui, mais c'est Montreuil, c'est la deuxième ville malienne, hein.
Après Bamako.
Et effectivement, ils ont d'abord le poids économique. C'est eux qui tiennent l'économie à bout de bras, hein. Les populations seraient dans un état c'est un état failli, c'est une économie qui, grosso modo, j'ai envie de dire, ne sait pas où elle va, entre les rachats par les Chinois de terres et la progression surtout du désert, parce que tous et chacun sont d'abord des exilés climatiques. C'est quand même comme ça qu'il faut les regarder. Hein.
Donc c'est une vie à la fois de Malais, vous le filmez effectivement dans sa communauté malienne, dans son foyer, en même temps à la fois entouré, vous parliez de conseils, et en même temps dans la solitude. C'est aussi cette dialectique,
oui,
cette tension.
On a une image des foyers comme étant des lieux de grande socialité, où tout le monde serait... Mais en fait, chacun est quand même... beaucoup plus isolé qu'on ne le pense. Il y a des systèmes très sophistiqués d'entraide, mais d'une part, ça fonctionne pas toujours. Les jeunes sont assez coupés des plus anciens, tout simplement culturellement, parce qu'ils rentrent plus dans leurs histoires. Hein. Malais est un vieux à ce niveau-là. C'est très étonnant, la vie des foyers. Vous avez aucune vie personnelle dans un foyer. Vous pouvez pas dormir le soir. Le soir, les gens rentrent jusqu'à sans tenir compte de l'heure. Donc, c'est très très épuisant. Donc, ils sont à la fois très nombreux. On peut dire, ils sont entassés. Hein, ils sont vraiment. Les chambres sont toutes petites et il y a pas mal de passagers clandestins, on va dire. Hein. Et en même temps, ce qui fait que ça tient, c'est les relations de village. C'est, ah bah oui, lui il est là parce que je le connais, parce que je connaissais son père, ou je connaissais sa tante, ou je connaissais son grand-père. Donc les relations, d'une certaine manière, de clan sont très très fortes. Et en même temps, ça le laisse dans une certaine solitude. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il s'est lancé dans cette aventure avec moi, c'est que, d'une certaine manière, il trouvait avec moi un interlocuteur qu'il ne trouvait peut-être pas parmi les siens.
Vous l'avez filmé sur plusieurs années?
Je l'ai filmé sur 5 ans.
Et comment ça se passait, un peu chaque semaine? Comment
un peu chaque semaine ou tous les 15 jours. Il y a eu des périodes où je ne l'ai pas filmé, mais on continuait à se voir. Le film a avancé petit à petit en se définissant lui-même, en trouvant lui-même sa direction et son énergie. Et donc chaque fois qu'il me posait des questions, chaque fois qu'il me parlait... Pendant que je le filmais, comme je vous disais tout à l'heure, il me provoquait, on avançait, et puis après ça levait des questions qu'on pouvait reposer la fois suivante. Il m'emmenait où on se retrouvait sur son lieu de travail en fonction des possibilités, fallait pas le mettre
en difficulté.
En difficulté, on va dire, oui. Donc, on jouait un peu avec tout ça, et puis c'est comme ça, dans cette dynamique-là, que petit à petit, il a pu m'amener à un mariage, qu'il en a ressenti le besoin lui-même, à cette réunion d'habitants, de ressortissants, comme il dit, de son village, à me faire pénétrer comme ça dans des moments, avec souvent d'ailleurs beaucoup de pudeur. J'attendais des fois, j'étais là dans un coin à attendre de pouvoir sortir ma caméra, puis il me faisait aucun signe, puis après les gens me disaient « Mais pourquoi tu nous as pas filmé ?»
Mais du coup, vous ne compreniez pas ce qu'ils se disaient entre eux?
Ah, je comprenais.
Ils parlent en soninké?
Ils parlent en soninké, hein, c'est donc une langue assez proche du bambara, de ce groupe linguistique. Et donc, de temps en temps... Quand il y avait des conversations, je lui disais, oh, dis donc, tu pourrais peut-être un peu me dire de quoi il s'agit, mais tout ce qui est dit en soninké est traduit par lui après coup. Mais je tenais à ce que ça soit lui qui traduise, parce que c'est lui qui m'a emmené, donc qui continue son rôle de guide, d'introducteur, et qu'on reconnaisse cette voix. Et j'aurais pas aimé mettre des sous-titres comme s'il y avait eu une espèce de transparence de la langue. La langue, elle est pas du tout transparente. Je suppose qu'à RFI, vous le savez mieux que d'autres. La langue est pas du tout transparente. Et le fait que ça soit ces mots en français qui traduisent le soninké était très important. Après, bien sûr, j'ai fait vérifier la traduction par quelqu'un d'autre. Hein.
Je suis un Français,
oui,
qui filme un Malien.
Oui.
On est d'accord?
On est d'accord.
Au Mali,
oui,
se pratique encore,
oui,
l'excision.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que l'excision?
Bon, l'excision chez nous,
oui,
Ça date des centaines d'années.
Oui.
Qui s'est instauré chez nous.
Oui.
Donc, si l'homme qui n'est pas excisé...
Non, je ne te parle pas des hommes, je te parle des femmes.
Ah, exactement. Donc, je peux donner la réponse à celui-là. Oui. Si la femme qui n'est pas excisée, c'est nous.
Oui.
D'après ce que nos anciens nous ont expliqué,
oui,
cette femme sera très, 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 très amoureuse.
Elle va courir partout.
Elle va courir derrière les hommes. Donc l'excision va réduire un peu son amour.
C'est pour calmer le démon des femmes.
Voilà, c'est pour calmer. Mais ce n'est pas obligatoirement de le faire.
D'accord.
Ce n'est pas une obligation obligatoire. Si tu le fais, c'est une bonne chose chez nous de le faire.
Mais alors, ça veut dire ta femme est excisée ?
Eh oui, oui.
Et tes filles ?
Tout.
Toutes tes filles sont excisées ?
Eh oui, tout. Je suis dans ce chemin. Je suis dans ce chemin que j'ai trouvé avec mes parents. Donc, je continue sur ça. Je ne sais pas si mon fils aussi va continuer ou non.
Voilà, Denis Garbrand, un extrait de Mallet en son exil. Plusieurs fois, Mallet l'explique, sa position. Lui, il est très traditionnel dans ce sens-là. Lui, il est pour la polygamie, même s'il n'est pas lui-même polygame. Et donc, pour l'excision, ça vous discutez, vous essayez de le bousculer. Ou vous bousculez mutuellement. Mais ça, pour vous, les deux positions sont irréconciliables.
Non, elles sont irréconciliables, c'est clair. Et c'est oui ou non, c'est noir ou blanc. Il y a pas d'alternative. J'ai presque envie de dire que les grands conflits de civilisation, ils vont se retrouver et ils vont se focaliser sur les questions, sur la question du sexe, sur la question du rapport entre les hommes et les femmes. Les premiers missionnaires, ils parlent bien cette expression de la position du missionnaire. C'est pas pour rien. C'est que les missionnaires ont toujours voulu normaliser, figer la sexualité sur leur propre mode. Alors, ce que ne dit pas l'extrait, c'est que c'est Mallet qui est venu me chercher là-dessus, encore une fois. Parce que, bien évidemment, c'est pas moi, le petit Français, qui allait dire aux Maliens, dis donc, vous faites des choses qui sont pas très très jolies, chez vous.
Il le dit, effectivement, les Occidentaux veulent absolument nous imposer, en gros, leur conception, et leur nous, conception. Au Mali, voilà, on pratique
absolument, parce que la colonisation est d'abord vécue sur la colonisation, à la limite de la libido, de ce qui est fondamental. Donc effectivement, il y a ce côté légitime de dire, laissez-nous nous aimer ou nous torturer comme on veut, c'est pas vos affaires. Et bien sûr, nous sommes
imprégné de l'esprit des Lumières, et effectivement en France, l'excision est reconnue comme une mutilation.
Ah ben c'est un crime.
C'est un crime.
C'est ce que je lui dis.
Justement, Denis Garbrand, est-ce qu'il y a de quoi ? Enfin, moi, je suis surprise des discussions entre journalistes, puisque pour l'instant seuls les journalistes ont vu votre film, que ça suscite tout le monde étant très très surpris que cet homme qui vit en France depuis très longtemps reste pour la polygamie, même s'il n'est pas polygame lui-même, qu'il soit pour l'excision, que sa femme soit excisée, que ses filles le soient, etc. Est-ce que finalement votre film, ce serait ma question, ne révèle pas plus de nous que de lui ?
Non, il vit en France en reconstituant un territoire culturel propre à sa communauté. Alors c'est vrai que les réactions au film, moi, m'étonnent et ne m'étonnent pas. C'est vrai que le film a été boudé, pour ne pas dire rejeté, par les festivals beaucoup plus que... Enfin, pour moi, ça a été une surprise par rapport à mes autres films. Surprise pas très agréable. Même chose quand je lis des critiques, comme je viens d'en lire ce matin, où les critiques de cinéma ne parlent plus de cinéma, mais parlent de société. Je suis un peu étonné. parce que d'une certaine manière, le film, il pose bien, très clairement, là, il y a cette conception, et là, il y a une autre conception dans laquelle on peut se reconnaître. Tout mon travail a été précisément de ne pas jeter Mallet en pâture, mais d'expliquer tout au long du film, par une succession de séquences, comment il dit qu'il est amoureux de sa femme. Aller trouver un Africain qui va dire ça, les Africains sont, qui voient le film sont les premiers surpris qu'il puisse y avoir une parole aussi intime et personnelle venant d'un Africain. Et ça, s'il y a cette parole, c'est aussi...
Parce qu'il se sentait en confiance aussi.
Non, mais c'est surtout cette relation qui petit à petit aussi a agi sur lui, lui fait toucher des choses de lui-même qu'il n'aurait pas touchées. C'est pas une photographie, jamais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de photographie des opinions. Hein. Donc, on avance petit à petit, il avance, et on est dans l'opposition de deux représentations. Et maintenant, on peut dire, il faudrait pas qu'il y ait... Faut pas le voir. Moi, j'ai fait un film sur les enfants qui avaient le cancer, et il y avait des gens qui me disaient que c'était insupportable de montrer des enfants qui avaient le cancer. Alors, d'accord. Alors, il y a des choses qui sont insupportables. Et donc, on ne les regardera pas. Donc, on va faire semblant que tous les migrants ont signé la charte des droits de l'homme. Ben non. Alors, évidemment, c'est un peu embêtant parce qu'on accueille les migrants au nom des droits de l'homme. Alors là, on est pris dans des contradictions qui font penser tout simplement que quand on pense des choses, on les pense comme universelles. Si vous croyez en des valeurs, elles sont universelles. Donc vous les imposez à d'autres. Mais en même temps, les autres, ils disent « Mais pourquoi nous, on partage pas ça ?» Donc pourquoi est-ce que vous nous l'imposez ? En même temps, on a bien envie quand même, parce que c'est insupportable de penser à toutes ces fillettes qui sont...
Mutilées.
Mutilées, merci.
C'est sur ces mots et ce débat, et effectivement, qui peut être philosophique, mais que je vous invite tous à voir votre film, Denis Gerbrand, Mallet en son exil, sorti cette semaine en France. Je ne sais pas s'il sera...
Oui,
visible au Mali, il va circuler.
Ah, au Mali, il va circuler en DVD ou il
voilà.
va circuler comme
Donc,
ça.
Donc, guettez, Mallet en son exil. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une rencontre exceptionnelle avec Omar Sy, acteur et producteur du film Yao, un film montrant une célébrité découvrant le Sénégal, le pays de ses parents. D'ici là, bonne